VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir, bienvenue. Il est 13h en temps universel. Au Cameroun, le président Paul Biya accorde des promotions aux officiers supérieurs engagés dans la guerre contre les militants de Boko Haram, et cela dans l'extrême nord du pays. 5 colonels deviennent des généraux de brigade, parmi eux Jacob Kodji, commandant de la 4e région militaire qui couvre l'extrême nord. Il dirige l'opération Émergence 3 qui regroupe l'ensemble des activités dans la région visant à combattre les islamistes. Frédéric Dionkep commande la 3e région militaire qui couvre les deux autres régions du nord du pays, notamment l'Adamawa. Bouba Dobokreo, lui, est coordonnateur du bataillon d'intervention rapide qui vient de perdre 2 hommes dans la toute dernière attaque des islamistes dans l'extrême nord. Toujours au Cameroun, fermeture des locaux de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média par les autorités. Selon le Conseil national de la communication, Afrique Média n'aurait pas respecté les mesures de suspension de 6 mois prises à l'encontre de 2 journalistes de la chaîne. Les explications d'Albert Patriceya, il est le directeur de l'information de la chaîne.
Le Conseil national de la communication, au mois de février dernier, a commencé à nous créer des problèmes, et indiquant que le travail que fait Afrique Média posait des problèmes par rapport à la diplomatie camerounaise, qu'on attaquait les pays étrangers et les autorités étrangères. Ils estimaient que donc ce travail-là n'était pas bien. Et c'est pour cela que le 4 juin, ils ont donc pris une sanction à l'encontre d'Afrique Média. C'est une sanction qu'on ne pouvait pas respecter parce que nous avons estimé qu'elle était disproportionnée dans la mesure où la faute de non-encadrement des panélistes est une faute qui n'est pas une faute directe professionnelle pour un journaliste. Il s'agit des invités sur un plateau.
Albert Patriceya, le directeur de l'information d'Afrique Média au micro de Bagassikoura. Au Mali, accalmie relative dans le nord du pays, principal bastion des indépendantistes, alors que l'on constate une intensification des actes de terrorisme et des attaques de djihadistes ailleurs dans le pays. Pourquoi cela? L'analyse de Souleymane Rabot, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Essor à Bamako.
C'est peut-être la rançon de la signature de l'accord de paix qui a été signé le 15 mai et le 20 juin à Bamako entre le gouvernement et certains groupes armés. Parce que cet accord de paix a clarifié un peu le paysage des attaques. Tous les groupes qui avaient des velléités indépendantistes ou bien autonomistes respectent le cessez-le-feu aujourd'hui. Donc, toutes les attaques qui ont lieu sont le fait de groupes vraiment djihadistes ou bien terroristes. Si vous regardez une carte du Mali, ces attaques ne touchent plus tant le nord du Mali que le centre du pays. C'est une zone dont certains combattants sont originaires, et des combattants qui avaient rejoint le Nijao à l'époque de l'occupation du Mali en 2000.
Est-ce que l'État malien a des capacités de contenir ces attaques, voire même éradiquer cette menace?
Non, mais aussi bien l'armée malienne que la MINUSMA n'ont pas trop de capacités à combattre la guerre asymétrique qui leur est proposée. Ce sont des forces conventionnelles qui se déploient de manière assez classique. Aujourd'hui, il faut réorganiser l'armée malienne pour pouvoir combattre cette guerre asymétrique qui est imposée au Mali. Et le Mali aussi devrait demander à la MINUSMA de revoir le mandat de la force onusienne pour le permettre de prêter main forte à l'armée malienne dans ce nouveau combat qui est proposé. En fait, dans le contexte actuel, il n'y a que les Français de Barkhane qui sont outillés, équipés, formés, entraînés à ce genre de combat.
Vous avez parlé de la signature de cet accord où plusieurs groupes armés ont accepté le cessez-le-feu. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir convergence de forces entre l'État malien et ses groupes armés pour pouvoir faire face justement à ces attaques terroristes?
Effectivement, c'est un des points importants qui figure dans les accords de paix, c'est de constituer des patrouilles mixtes pour sécuriser ce vaste territoire que constitue le nord du Mali. Mais la constitution de ces patrouilles mixtes est conditionnée par la mise sur pied d'abord du comité du suivi de l'accord de paix. Et donc, ce sont ces points organisationnels et structurels qu'il faut mettre en place d'abord, qui retardent justement la constitution et l'entrée en action des patrouilles mixtes. Donc il est vraiment urgent pour toutes les parties, le gouvernement comme les groupes armés signataires de l'accord de paix, de se mettre d'accord tout de suite sur le comité de suivi.
Souleymane Rabot, ancien rédacteur en chef de L'Essor, joint à Bamako par Eric Manirakiza. En Mauritanie, le Parlement a adopté une nouvelle loi durcissant la répression de l'esclavage, désormais considérée comme un crime contre l'humanité, et doublant les peines contre les auteurs. La nouvelle législation établit aussi des juridictions spécialisées pour juger les infractions relatives à l'esclavage et accorde aux victimes une assistance judiciaire et une procédure gratuite. Burundi, les rumeurs foisonnent dans le pays, particulièrement à Bujumbura, la capitale. En effet, les principales radios indépendantes sont fermées depuis déjà 3 mois et les gens se rabattent sur les médias sociaux comme Facebook, WhatsApp et Telegram, Instagram pour s'échanger les toutes dernières nouvelles sur la situation toujours volatile dans le pays. Le procureur de la République dit que des enquêtes sont en cours sur la fermeture des radios indépendantes par les autorités, mais les gestionnaires des radios privées affirment que rien n'est fait pour que les radios indépendantes reprennent leurs activités. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkuruziza.
Près de l'église Saint-Michel, dans son bureau 6 à l'avenue de la Mission, Délise Canez, à la trentaine, a les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. Côté d'elle, une radio de type Sony est laissée à elle-même. Sa radio publique africaine préférée, RPA en sigle, n'émet plus depuis 3 mois. À la place, elle se concentre désormais sur les médias sociaux tels Facebook, heure après heure, à la quête d'une information vérifiée, Belize Canesa.
Chaque minute, je dois être informée pour savoir quoi faire. S'il y a des problèmes, vous savez, ici à l'insécurité, on n'est pas sûr du lendemain. Je dois suivre toutes les informations avant que les radios ne ferment. J'avais une radio que je préférais beaucoup, la RPA. Maintenant, je fais un peu de confiance à la Voix d'Amérique, mais surtout à certains sites Facebook. Des fois, il y a des sites de menteurs, de propagandistes, d'extrémistes, mais il y en a qui sont fiables. Je dois consulter toutes les 3 heures.
Eline Nduy, 45 ans, habite les collines surplombant la capitale. Depuis plus de 3 mois, il n'écoute que la radio-télévision nationale qui, elle, émet sur toute l'étendue du territoire.
Les informations que nous suivons normalement passent principalement sur la radio nationale et la télévision nationale. Que ce soit crédible ou pas, on est obligé de suivre cette information parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous suivons aussi la radio France Internationale ou même la radio Voix d'Amérique. On pourrait demander aux autorités de réouvrir les radios et les télévisions qui ont été fermées.
Le rédacteur en chef de la radio Bonécha, aucune enquête n'a jamais été menée dans les faits, même si le chef de la cellule communication à la présidence de la République attend les conclusions des services habilités, Léon Massengo.
Nous avons déjà approché le procureur général de la République. Nous avons saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et visiblement, on constate qu'eux-mêmes ne sont pas à mesure de trouver une solution ou de répondre à notre demande et de reprendre nos activités. C'est déplorable. C'est vraiment dommage que l'on puisse passer 3 mois sans avoir accès à nos sites et sans pouvoir reprendre nos activités. Nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se fait en termes d'enquête. Nous n'avons jamais été approchés par ces gens.
Human Rights Watch a indiqué que les rumeurs et la violence alimentent l'incertitude au Burundi. Cette organisation affirme aussi que la suppression des médias indépendants est aussi préoccupante que la violence qui s'empare du pays des mille et une collines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Des citoyens en majorité iraniens vivant à l'étranger ont appelé via les réseaux sociaux à des rassemblements samedi à travers le monde pour soutenir l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Cette initiative, baptisée Journée internationale de la paix, a été lancée par des dizaines de volontaires dans plus de 50 grandes villes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, indique un communiqué de ces volontaires qui affirme n'avoir aucune affiliation politique. Et ici, même aux États-Unis à l'intérieur, seulement un Américain sur 3 approuve la politique du président Barack Obama pour limiter le programme nucléaire iranien. 55% des répondants sont contre, c'est ce que révèle le tout dernier sondage d'opinion de l'organisation Gallup, des résultats qui sont similaires à ceux d'une précédente enquête du sondeur Quinnipiac qui montrait que 2/3 des Américains n'approuvaient pas l'accord nucléaire international récemment conclu entre l'Iran et 6 grandes puissances dont les États-Unis. Enfin, le secrétaire d'État américain John Kerry se rend aujourd'hui à La Havane pour la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Cuba, presque 8 mois, jour pour jour, après l'annonce simultanée par le président américain Barack Obama et le leader Raúl Castro de la reprise des relations diplomatiques bilatérales. Jean-Roger Billon à ses micros. Merci de nous avoir suivis tout à l'heure. 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.